Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est tout un programme, n'est-ce pas ? Et c'est ainsi que Matthieu va terminer son évangile. Il s'agit de la grande mission que Jésus va donner à ses disciples. Ça se passe juste après sa victoire contre la mort, sa résurrection et juste avant son ascension auprès du Père. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous proposer deux axes de réflexion que je vais résumer en deux questions. La première, c'est qui est Jésus-Christ ? Qui est cette personne qui a prononcé ce texte que j'ai lu juste avant ? Et la seconde, c'est qu'est-ce que l'Église ? Et bien sûr, les réponses à ces deux questions sont intimement liées. Est-ce que ça vous convient comme programme ? Est-ce que vous voulez qu'on parle de Jésus et de son Église ce matin ? Ouais ? Amen. Bien, je vais prier déjà. Seigneur, je te remets ce moment. Il y a ce que je vais dire, mais il y a ce que tu veux communiquer à chacun. Et c'est ça qui est important, Seigneur. Alors vraiment, que ton esprit vienne nous enseigner toutes et tous, selon ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Alors commençons avec cette question que je vais tout d'abord vous poser ce matin. Imaginons que je ne suis pas à cette place-là, que je suis quelqu'un que vous croisez dans la rue et qui vous pose cette question, qui est Jésus-Christ ? Qu'est-ce que vous lui répondriez ? Sauveur, Fils de Dieu, Dieu. Alors pourquoi je vous pose cette question ? Parce que c'est intéressant, Jésus va poser cette question à ses disciples. C'est un passage qu'on retrouve dans les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Donc c'est des évangiles qu'on appelle synoptiques, c'est un mot compliqué pour dire qu'il dresse une vue d'ensemble, un tableau général de la vie de Jésus et de son ministère. Et donc les trois évangiles sont relativement proches par rapport à ce passage, mais je vais vous faire la lecture de Matthieu au chapitre 16 à partir du verset 13, parce qu'il est un peu plus étoffé. Alors, évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 13. « Jésus étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alors, dans ce passage, Jésus commence à poser une première question. Qu'est-ce que les gens disent de moi ? Qu'est-ce que les gens pensent de moi ? Et les disciples vont lui dire que certaines personnes pensent qu'il s'agissait de Jean qui baptisait dans le Jourdain, pour le baptême de repentance. Et d'autres pensent qu'il est un ancien prophète qui serait ressuscité. Alors ça, c'est un détail que Luc ajoutera dans son évangile, le mot « ressuscité ». Et toutes ces réponses, finalement, on voit qu'elles ne sont peut-être pas si éloignées d'une certaine manière de ce qu'on pourrait entendre aujourd'hui. Si on allait dans la rue et qu'on demandait à plusieurs personnes « Mais qui est Jésus-Christ ?» On pourrait très certainement avoir ce genre de réponse. Alors, peut-être pas tout à fait les mêmes, mais certains diraient Jésus était sans doute un homme bon, qui a fait de bonnes choses pour les gens qui l'entourent. D'autres diraient que c'était un homme de paix. Certains diraient même que c'est un grand prophète. D'autres diraient que peut-être c'est le créateur d'une religion. Certains diraient même, peut-être que c'est un des différents dieux qu'il prie selon ses besoins. Beaucoup de personnes, finalement, pensent plein de choses à propos de Jésus. Et il y a même des livres entiers qui ont pu être écrits sur Jésus. En somme, on peut entendre beaucoup de choses, mais ce qui est intéressant, avec les évangiles notamment, c'est qu'on y voit ce que les personnes qui l'ont côtoyé quotidiennement, comme Matthieu ou comme ses autres disciples, ont à dire sur lui et sur ce qu'il leur a communiqué. Et donc Jésus lui-même, dans ce passage, va en quelque sorte dire « D'accord, certaines personnes pensent ceci, d'autres pensent cela. » Mais ensuite, il leur posera cette deuxième question. « Vous, quelle est votre réponse ? Qui suis-je d'après vous ?» Jésus va individualiser la réponse. Comme si ce que les gens pensent, finalement, c'est pas si important. Ce qui est important, c'est toi. Pour toi, qui suis-je ? Jésus va, en quelque sorte, mettre chacun face à son engagement, face à sa responsabilité. Alors, les évangiles ne nous disent pas si, lorsqu'il leur a posé cette question, il y a eu un temps mort, si tout le monde s'est regardé, s'il y a eu de la réflexion. Mais ils nous précisent qu'une seule personne va prendre la parole. C'est Simon-Pierre qui va dire « Tu es le Christ, le Messie, qui veut dire celui qui est oint, le Fils du Dieu vivant. » Et suite à cela, Jésus va lui répondre « Tu es heureux, ou alors selon d'autres traductions, tu es bienheureux ou encore tu es béni. » Le terme qui est utilisé dans l'Évangile en grec, c'est « makarios », et c'est le même d'ailleurs qu'on retrouve dans les Béatitudes, dans le Sermon sur la montagne. Et il signifie pas seulement une joie passagère, un bonheur passager. C'est un état de profonde plénitude qui touche l'être tout entier et qui est amené à se répandre, à s'étendre. Finalement, bienheureux, c'est l'état de celui qui a fait l'expérience de la présence de Dieu, de sa promesse et de son royaume. Et Jésus va le préciser très clairement en disant que cette réponse donnée par Simon, eh bien, en fait, elle vient pas de lui. Cette réponse, elle ne vient pas de son simple raisonnement humain. Cette réponse, elle vient de Dieu le Père. Je me questionne, est-ce que Simon s'en est rendu compte lorsqu'il l'a dit ? Est-ce qu'il s'est dit « Ah, ça vient pas de moi » ou bien alors est-ce qu'il l'a communiqué comme ça, comme naturellement ? Et donc ce passage dévoile quelque chose de très particulier car il nous précise qu'il n'y a qu'une réponse qui est importante à cette question, qui est Jésus. C'est la réponse qui vient par la révélation personnelle de Dieu le Père en chacun. Et ça n'a rien à voir avec des mots ou avec du vocabulaire ou avec une leçon apprise par cœur. C'est une question de révélation, de rencontre, de relation avec Dieu qui donne lieu à un état de plénitude qui va se répandre. Et moi, si je peux vous faire part d'une toute petite partie de mon témoignage, c'est vraiment ce déclic de la révélation de qui est Jésus qui m'a conduit à rencontrer réellement Dieu, à m'approcher de lui et à en vouloir plus encore. Et je vous dis ça, j'avais lu pendant une dizaine d'années la Bible, j'avais lu ces versets, j'avais lu tous les évangiles. Et j'avais même, une première fois à 18 ans, fait l'expérience réelle de la présence de Dieu. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le monde a plein de choses à dire sur Jésus. Il y a plein de mensonges. Et je pense que le malin veut utiliser tous les stratagèmes pour nous éloigner, pour nous laisser penser que la vérité est ailleurs. Mais Jésus nous dit que la vérité, c'est lui. Je suis le chemin, la vérité, la vie, vous connaissez. Nul ne vient au Père que par moi, vous connaissez ce verset. Et c'est pourquoi le Père donne cette révélation de Jésus, pour pouvoir venir pleinement à lui. Nul ne vient au Père que par moi. Et par la suite, Jean nous dira, si vous me connaissez, c'est ce que dit Jésus, hein, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Et Philippe qui lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu ? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui est en moi c'est lui qui fait les œuvres. Parfois, on peut être lent à se rendre compte de certaines choses. C'était un peu le cas de Philippe dans ce passage du chapitre 14 de l'évangile de Jean. Et ça, je crois que Jésus en a bien, bien conscience. C'est pourquoi, encore une fois, il se révèle personnellement dans le cœur, dans les cœurs. Ici, Jésus dit clairement aux disciples qu'il est l'incarnation du Père. C'est pas rien quand même. Lui et le Père font un. Jésus et le Père ont le même Saint-Esprit. C'est étrange, c'est mystérieux, mais c'est la seule et unique vérité. Notre Dieu, le Dieu créateur de toutes choses, est un Dieu de relation, de liberté, et nous le voyons dès le premier livre de la Bible. Parce qu'il se soucie de nous, il se soucie de ce qu'on pense, il se soucie de nos projets, de notre être tout entier et de notre bonheur. Rappelons-nous le premier commandement, si je puis dire, donné aux hommes dans la Bible, au tout début de la Bible. Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu bénit l'homme et la femme, ce qui va les rendre bien heureux. » La bénédiction de Dieu fait de nous des gens bien heureux. Dieu veut que l'on soit rempli de sa présence dans tous les aspects de notre vie, pas seulement le dimanche matin. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que nous avons une mission. Et nous allons partir dans le « Qu'est-ce que l'Église ?» Dans la suite du passage de l'Évangile de Matthieu que je vous ai lu tout à l'heure, il est aussi question de l'Église. C'est la première fois que Jésus va évoquer le mot « Église ». En grec « ecclésia ».« Ecclésia », ça veut dire quoi ? Ça signifie littéralement « être appelé hors de ».« Être appelé hors de ». Et il faut savoir que dans la Grèce antique, ce terme « ecclésia », c'était un terme pour désigner l'assemblée des citoyens qui étaient convoqués à se rassembler pour débattre des lois en place publique. Ce terme n'était jamais associé à un culte religieux. C'est un terme politique au sens noble du terme, pour discuter de la société, de ses lois, ce qui est d'autant plus intéressant puisque Jésus parle à de nombreuses reprises du royaume de Dieu ou du royaume des cieux, citoyen d'un royaume. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. C'est ce que nous lisons dans l'Épître aux Éphésiens. Jésus n'est pas très intéressé par les temples faits de mains d'hommes. On peut le voir dans les évangiles, ça ne l'impressionne pas. Et d'ailleurs, c'est même un mobile qui est utilisé contre lui pour sa condamnation. Alors, utilisé de manière fallacieuse, qui est utilisé contre lui. Ce qui intéresse Jésus, c'est le royaume de Dieu. Et donc l'étymologie de ce mot, ecclésia, invite donc à être séparé du monde, à sortir notamment des travers du monde, du péché qui conduit à la mort, de l'idolâtrie, et à se rassembler. Et Jésus décrit bien cela en Jean chapitre 15. Verset 19, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Alors en choisissant la voie de Jésus, nous continuons à vivre dans le même monde, sauf qu'il nous est maintenant hostile, car nous n'appartenons plus à ce dernier. Et nous ne partageons plus la vision de celui qui domine le monde, que Jésus appelle le prince de ce monde. Et Jésus, avant son jugement et sa mise à mort à la croix et sa résurrection, va dire « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Tous les hommes, c'est tout le monde. En réalité, c'est les hommes et les femmes, tout le monde. Mais le terme grec, c'est bien tout le monde. J'attirerai tous à moi. Ça, c'est le royaume de Dieu. Dieu, Jésus, n'a pas et n'a jamais eu besoin des hommes, finalement, pour faire ce qu'il souhaite. Mais, depuis que Dieu a créé l'homme et la femme, il souhaite vivre avec eux et il souhaite qu'ils prennent part à ses plans, à ses projets. Parce qu'il nous aime, déjà, et aussi parce que ses projets sont pour nous des projets de paix, de bonheur. Et en lisant ces dernières phrases de Jésus avant son ascension, il affirme bien qu'il sera toujours avec ses disciples dans cette mission qu'il leur communique, faite de toutes les nations des disciples. Alors, je vous propose de regarder maintenant attentivement le terme de nation. Qu'est-ce qu'une nation ? Qu'est-ce qu'une nation au sens de la Bible ? Là, c'est le terme grec « ethnos », qui dans la Bible désigne tous les peuples païens, tous les peuples qui ne connaissent pas Dieu, tous les peuples qui se sont éloignés du Dieu créateur de la, qui est désigné dans la Bible, Yahweh. Et ce terme de nation, il apparaît pour la toute première fois dans la Bible, juste après l'épisode de la tour de Babel. La tour de Babel. Alors pour mémoire, je reviens. Le déluge a eu lieu et Dieu va faire alliance avec Noé et avec ses fils. Il va d'ailleurs leur dire quasiment la même chose qu'à Adam et Ève. Il va leur dire, il va les bénir déjà. Dieu bénit Noé et ses fils et il va leur dire « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre ». Il ajoutera 2-3 choses en plus, mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Et donc, suite à cela, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, dans les générations qui vont suivre, très vite, les hommes vont faire quelque chose d'étrange. Ils vont se dire ben, « Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Ils s'opposent radicalement au plan de Dieu. Dieu dit « Multipliez, remplissez la terre » et eux, ils disent « Non, on ne veut pas être dispersés sur toute la terre. On veut se rassembler et faire une ville et bâtir une tour. » Ils s'opposent au plan de Dieu qui, au-delà d'être le plan de Dieu, c'est aussi le plan de bénédiction pour l'humanité. Et donc, au lieu de remplir la terre, ils vont bâtir une tour. Selon les recherches archéologiques, ça s'apparenterait à une ziggourate. C'est un terme acadien qui vient du verbe « zakarou » qui veut dire « élever, construire en hauteur ». Et aussi, c'est un édifice religieux, une tour qui permet de se rapprocher du ciel et qui possède un temple en son sommet. Et donc, il semble qu'à partir de ce moment, l'humanité va devenir idolâtre. Elle va chercher à se faire un nom, elle va chercher à créer des dieux aussi. Et donc, la solution de Dieu pour continuer son plan initial, ça va être quoi ? Séparer les hommes en nations, en confondant leur langage et en les laissant se disperser ensuite parce qu'ils pourront plus se comprendre, s'entendre. Et Dieu va par la suite faire quelque chose encore d'étrange. Il va entrer en relation avec un couple. Un couple qui n'a pas la possibilité de répondre à son commandement d'être fécond, de se multiplier, de remplir la terre. Il va se rapprocher d'Abraham pour être ami avec lui. L'Éternel dit à Abraham, nous le lisons dans Genèse chapitre 12, verset 1, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Il l'a sorti d'un pays idolâtre, avec une religion idolâtre. « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu a choisi une situation impossible. Il était impossible à Abraham et sa femme Sarai d'avoir une descendance. Mais Jésus dira bien plus tard qu'à Dieu tout est possible. Dieu a vu que les hommes voulaient se faire un nom et il va dire à Abraham, je rendrai ton nom grand. Dieu nous montre que grâce à lui seul, il y a une espérance, grâce à lui seul, il y a une rédemption, grâce à lui seul, il y a une bénédiction sur toutes les nations de la terre. Et donc l'Église, elle a commencé avec cette promesse de Dieu faite à un homme et à sa femme d'avoir un enfant. L'Église, c'est le plan de Dieu pour étendre sa bénédiction sur l'humanité tout entière. Elle est l'instrument, si je puis dire, du royaume de Dieu, l'outil des hommes et des femmes qui font le choix un jour, par la foi, d'accepter d'être mis à part, de sortir de l'esprit du monde et de marcher par l'esprit du Dieu vivant. Finalement, l'Église, elle est un peu cette porte étroite, ce chemin resserré qui mène à la vie. Un outil pour répandre la bonne nouvelle de qui est vraiment Jésus-Christ. Alors, nous entrons dans l'été, donc je voulais finir un peu la dernière partie de ce message avec un peu une ouverture témoignage qui vient vraiment en complément, qui m'a pas mal marqué. Un témoignage de vie du fondateur de l'Association internationale des hommes d'affaires du plein évangile, que l'on peut retrouver dans le livre « Les gens les plus heureux sur Terre », donc la vie de Demos Chakarian. Alors, je vais vous lire ce témoignage. C'était à Cuba. Après que Fidel Castro eut pris le pouvoir, notre petit groupe était logé dans ce qu'était autrefois le Hilton de la Havane, appelé maintenant Cuba Libre. Castro en avait fait son quartier général, hérissé d'armes, rempli de soldats. Mais nous n'avions encore jamais pu même entrevoir le chef lui-même. Puis un matin, vers 2 heures, tôt le matin, alors que j'allais me mettre au lit, soudain, en moi-même, je sus que si je m'habillais tout de suite et prenais l'ascenseur pour descendre au restaurant, je me trouverais face à face avec Fidel Castro. À cette époque, j'avais déjà eu trop de fois affaire au Saint-Esprit pour mettre en doute la véracité de tels éclairs de connaissance, quelque inexplicable qu'ils fussent, et je me rhabillais aussi silencieusement que je pus. « Où vas-tu ? » me demanda Rose en ouvrant les yeux. « Je descends pour rencontrer Castro. » Rose, elle aussi, était habituée maintenant à ce genre de signaux faits par l'esprit. « C'est sympathique, » dit-elle à moitié endormie. En bas, au restaurant, il n'y avait comme client qu'un groupe de très jeunes soldats qui me donnèrent l'impression d'avoir 15 ou 16 ans, assis au comptoir, buvant du jus d'orange. Quelques années plus tôt, m'expliqua le barman, la salle, à cette heure-là, aurait été bondée de monde. « D'Américains, » me dit-il, avec un air de regret. « Du casino, » ajouta-t-il, en faisant un geste dans la direction des salles de jeu, maintenant désertes, qui se trouvaient à l'étage. Il ne regardait pas à la dépense. Il inscrivit ma commande d'une glace et se dirigea vers la cuisine, en poussant un soupir. Quand il revint et me servit, il s'attarda près de la table, content, me sembla-t-il, d'avoir une occasion de bavarder. « Quand Castro viendra cette nuit, dis-je, voudriez-vous le prévenir qu'il y a ici un éleveur laitier de Californie et que j'aimerais m'entretenir avec lui ?»« Cette nuit ?» répéta le barman. « Il ne viendra pas ici cette nuit. Il ne vient jamais aussi tard que cela. »« Cette nuit, il viendra, » dis-je en finissant ma glace. Il me fixa un moment, et puis, « Quelqu'un vous a prévenu qu'il allait venir ici ?» Je ruminais sa question quelques instants. « Oui, » acquiesçais-je, « quelqu'un me l'a dit. »« C'est impossible, » dit l'homme en hochant la tête. « Il ne vient jamais après 10 heures du soir. » Et selon toute apparence, il semblait bien que le barman devait avoir raison. 5 autres minutes passèrent encore. 10. Les jeunes soldats quittèrent les lieux. Je pris ma note, me dirigeai vers la caisse. Au moment où le caissier me rendait ma monnaie, un lourd bruit de bottes se fit entendre dans le couloir. La porte s'ouvrit et livra passage à une 20aine d'hommes barbus, vêtus d'uniformes vert olive, les uns portant des fusils, des autres des mitraillettes américaines. Au centre du groupe se trouvait Fidel Castro. Il s'assit à une table, commanda un steak, tandis que ses gardes du corps se disposaient en cercle autour de la pièce. Et comme ils n'avaient personne d'autre à surveiller, leurs regards se portèrent sur moi. Je vis le barman se pencher, dire quelques mots à Castro. Ce dernier, à son tour, me regarda un bon moment, puis du doigt me fit signe de m'approcher. Je vins m'asseoir à sa droite. Très conscient des canons de fusil qui me suivaient à travers la pièce, Castro me posa un grand nombre de questions concernant la production du lait en Californie. Et il parut déçu quand je refusais de le laisser me commander un steak. « Quand je viendrai chez vous, me dit-il, je boirai un bidon, un plein bidon de lait. » Dans toute la pièce, ce fut un éclat de rire qui secoua les hommes barbus. À mon grand soulagement, les fusils s'abaissèrent et plusieurs des hommes allumèrent des cigarettes. Jusque-là, tout ce que je connaissais du chef révolutionnaire m'avait été donné par ses interminables discours à la radio. Je fus surpris en faisant personnellement sa connaissance de voir en lui un auditeur attentif et précis. « Et qu'est-ce qui vous amène à Cuba ?» me demanda-t-il après un moment. Je lui expliquai que nous étions venus, à quelques-uns, avec le désir de connaître des Cubains engagés dans les mêmes activités professionnelles que nous et à qui nous pourrions dire ce que le Saint-Esprit accomplissait au milieu de gens comme eux dans d'autres pays que le nôtre. J'eus une nouvelle surprise en constatant qu'il paraissait véritablement intéressé. Il me dit qu'il avait été une fois à l'hôpital au Texas, à Brownsville, et il ajouta « toutes les semaines ». Deux hommes apparaissaient à la télévision. L'un d'eux était Billy Graham, l'autre Oral Roberts. J'ai vu en eux des hommes droits de cœur et dont les paroles étaient sincères. Notre entretien durait déjà depuis 35 minutes. Lorsqu'un Américain animé d'une grande colère, mais aussi très ivre, apparut à la table. « Est-ce que vous ne répondez jamais aux lettres, vous autres ?» demanda-t-il. « Cela fait 3 mois que j'attends une réponse de ce soi-disant gouvernement. » J'eus du mal à suivre tout ce qu'il racontait, mais je crus comprendre qu'il était propriétaire d'une boîte de nuit qui avait fermé par ordre du gouvernement révolutionnaire. Je fus stupéfait de voir son audace alors que la pièce était pleine de soldats. Mais il était vraisemblablement trop absorbé par ses propres préoccupations pour les avoir remarquées. « Votre pays aussi perd de l'argent, continua-t-il, n'oubliez pas cela. C'était une bonne affaire que je vous apportais ici. Le visage de Castro était devenu presque aussi gris-vert que son uniforme. « Une bonne affaire, répondit-il. C'est cela que vous appelez une bonne affaire? Le jeu et les prostituées? Est-ce là tout l'intérêt que vous portiez, vous, à ce pays ?» J'essayais de capter le regard du propriétaire du club. Était-il vraiment possible que quelqu'un fût assez ivre et centré sur lui-même pour ne pas sentir le cri d'appel qui était dans cette question? Vous êtes-vous jamais préoccupé de nous? Avez-vous jamais cherché à nous connaître? Mais l'homme était allé trop loin pour rien pouvoir entendre. Ne cherchez pas à me faire la morale, dit-il, les Cubains en tiraient de gros profits. Castro se leva, laissant son souper inachevé. Arrivé à mi-chemin de la porte, suivi des soldats, il se retourna, fit quelques pas en arrière. « Je suis heureux que vous soyez venu, me dit-il, j'aurais aimé. » Son visage avait gardé sa teinte grisâtre et il ne termina pas sa phrase. L'instant d'après, ils étaient tous partis, suivis par le propriétaire de la boîte de nuit qui continuait à réclamer. Et je demeurais seul à table. Je consultais ma montre, il était 3h05 du matin. « J'aurais aimé. » Qu'avait-il bien voulu dire ? J'aurais aimé qu'un plus grand nombre d'hommes de chez vous fussent venus à Cuba pour prier plutôt que pour jouer. Et s'ils l'avaient fait, me demandai-je dans l'ascenseur qui me remontait à l'étage, que serait le monde aujourd'hui si les millions d'Américains qui voyagent se mettaient en route remplis de l'amour de Dieu pour les pays où ils vont? Et s'ils le faisaient désormais? À partir de cette nuit-là, partout où je rencontre des membres de l'association, c'est ce que je les supplie de faire. Allez, transmettez la bonne nouvelle, voyagez pour Dieu. Aidez à contrebalancer cette autre sorte de voyageur que le monde voit trop souvent. C'est un grand témoignage, mais il est parlant. Chers amis, nous, qui sait qui nous pourrions rencontrer dans une heure cet après-midi. On voit ce qui s'est passé en l'espace d'une heure, là, autour d'une glace et d'un steak. Qui sait qui pourrions-nous être amenés à rencontrer cet après-midi, demain ou dans les prochains jours ? Dieu le sait. Qui sait comment Dieu veut utiliser son Église ? Jésus le sait. Il en est la tête. Alors, ce matin, je voudrais prier le Père pour que son Saint-Esprit nous guide et nous révèle ses rencontres à venir et pour que la gloire de Dieu se révèle dans le cœur de nos bien-aimés. Nous l'avons entendu ce matin encore dans les prières. Nous avons un Dieu qui se révèle et qui veut remplir le monde de sa présence, chaque personne. Et je veux aussi prier pour que la bénédiction du Père rende chacun bien heureux, au nom de Jésus. Amen.